Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Ça me fait tout drôle, j'ai l'impression d'avoir passé le week-end, sans que lui le sache, avec un individu qui se trouve présentement en face de moi et qui semble n'en garder aucun souvenir, alors que moi j'ai appris plein de choses sur lui. Alors quand je dis passer le week-end, c'est littéralement, pas dans une maison d'hôte des Côtes d'Armor à gober des huîtres en regardant la mer que lui et moi avons toujours chérie. Non, le voyage avec Marc Duguin, puisque c'est de lui qu'il s'agit, m'a fait voyager sans bouger de mon canapé. Son film m'a emmené faire un tour en province, du côté de Saumur, dans la France de Balzac, en compagnie de la pauvre Jenny Grandet et de son père terrifiant, et son livre La Volonté, où il est aussi beaucoup question de père, m'a lui permis de voyager et dans le temps et dans l'espace, passant de la Bretagne justement au Sénégal via l'Océanie et les deux guerres mondiales. Autant dire que j'ai Duguin en tête, ce qui suffirait à ensoleiller ce lundi maussade et inconstant, tel que j'ai l'heure, et que j'ai l'heure qui vient pour vous convaincre de succomber à votre tour à ces appâts. D'ailleurs, cette émission a pour soutien titre L'appât du gain. Allez, pop, c'est parti.
France Inter. Pop. Antoine de Paune.
Mais c'est un gros poisson que je sors de l'eau là. Bonjour Marc Duguin.
Bonjour.
Bonjour, ma technique de pêche convient-elle aux bretons qui sommeillent en vous?
Très bien, sauf que je pêche pas, mais sinon...
Comment ça, vous ne pêchez pas?
Ben non, je pêche pas. Il y a plein de gens qui pêchent autour de moi, je vais au bord de la mer, mais moi je pêche pas.
Et vous vous contentez de les regarder pêcher?
Non, mais j'ai essayé de pêcher une fois, ouais. Et j'ai perdu deux fois l'hameçon, et je me suis dit, bon, à mon avis, c'est pas pour moi.
Et pas la main poissonneuse. Bon, non. Marc Duguin, ce n'est pas l'auteur que nous recevons, mais le réalisateur, car mercredi sort en salle Eugénie Grandet, sans aucun rapport, je le précise, aux milléniaux qui nous écoutent avec Ariana Grandet, Nietoré Grandet, le rossignol de Carquiran. Non, c'est le troisième long métrage que vous réalisez, Marc, et nous allons en parler dans un instant. Mais avant que Charline nous rejoigne pour évoquer Balzac, parlons un peu de cette fameuse Volonté, ce nouveau roman sorti en août, une plongée en profondeur à la recherche de cet homme exceptionnel que fut votre père et dont l'histoire traverse le siècle dernier. C'est votre premier livre aussi intime et autobiographique. Pourquoi roman plutôt que récit? Pourquoi avez-vous écrit roman sur cette couverture?
Ah ben j'ai mis roman parce que j'ai voulu me prémunir contre l'autocritique que je me serais fait, ouais. Si j'avais eu le sentiment d'une subjectivité telle que je déformais la réalité, probablement. Parce que ça remonte à loin. Mon père est mort il y a 35 ans. Et bon, c'est un hommage, évidemment, appuyé. Et j'avais l'impression de... le temps passe et donc l'oubli est là. Même si on, d'abord il y a le deuil et puis ensuite il y a le, il est mort jeune. Moi j'étais jeune aussi.
Vous aviez 22 ans, c'est ça.
Et voilà. Et donc ranimer tous ces souvenirs en prétendant qu'ils sont l'exacte vérité. On fait pas une biographie de ses parents en fait. Ça n'existe pas. Ouais, ça. Ouais. C'est pour ça que j'ai préféré rester dans mon univers qui est un univers romanesque. Je pense que, évidemment, dans une proportion très élevée, c'est vraiment l'histoire de mon père. Ouais. C'est évident. J'ai rien arrangé. J'ai été sans concession, que ce soit avec lui ou avec moi. Mais ça reste pour moi un roman.
Et l'expression roman familial s'applique en plein à cette histoire. Votre père était un personnage hautement romanesque. Est-ce que le romancier que vous êtes a quand même été tenté de rajouter de l'histoire à l'histoire?
Non, ce que j'ai été tenté de faire, et ce que j'ai fait, c'était que je voulais resituer son histoire dans le contexte historique, et parler de la grande histoire. Ouais. C'est ce que j'ai fait dans quasiment tous mes livres.
Ouais.
Voilà, quand j'ai fait La Malédiction d'Edgar ou Une Exécution Ordinaire, c'est toujours des petits personnages dans la grande histoire. Et là, je me suis dit que finalement, c'était une bonne façon aussi de prendre du recul et de rendre aussi l'histoire d'une certaine façon moins auto-centrée, parce que c'est pas trop mon genre et ma personnalité. Donc j'avais envie de dépasser le cadre de son histoire, même si elle est exceptionnelle et assez incroyable, en reparlant de ces années qui ont été les 30 glorieuses finalement,
ouais, ouais.
De la guerre en 41 quand il est tombé malade et ensuite de ces 30 années qui ont suivi jusqu'à sa mort.
Nous allons reparler et revenir un moment sur ce fameux texte, hein, La Volonté, qui est édité chez Gallimard. Nous allons en parler juste après un morceau qui me fait penser à vous, en tous les cas, au Marc Duguin qui passait ses après-midi entières, quand il avait plein de cheveux sur la tête, on peut que vous n'en ayez plus, hein, à voir et revoir Woodstock le film. Et ce morceau, c'est Green River. C'est un des groupes incroyables de l'affiche du festival Creedence Clearwater Revival. Creedence Clearwater Revival live à Woodstock, ce film qui avait tellement marqué le jeune Marc Duguin dont il parle dans ce livre La Volonté. D'ailleurs, à l'époque de Woodstock, vous étiez plutôt dans le camp d'Antoine et de ses élucubrations ou de Johnny avec ses cheveux longs, idées courtes?
J'étais
si plus... toutefois vous aviez à choisir le camp.
Oui, c'est plutôt Antoine parce qu'en fait sa mère était une amie de ma mère et Antoine était de Grenoble où j'ai fait. Il s'appelait Antoine Muraccioli. Et donc, j'étais plutôt Antoine.
Ah, plutôt Antoine.
J'ai jamais été très Johnny. C'est très difficile à avouer, comme ça. Mais c'est une heure de grande écoute.
C'est un vœu public qui vous honore, Marc Duguin. Enfin, qui vous honore. Moi, j'aime beaucoup Johnny, mais bon. Encore quelques mots de ce roman, Marc, sorti en août. C'est La Volonté. Ça aurait pu s'appeler Le Triomphe de la Volonté, mais je ne suis pas sûr que votre père aurait apprécié.
Non, parce que c'était quelqu'un d'assez modeste. Et oui, c'est la volonté, parce que quand on est à... Si vous voulez, il y a eu deux choses. Il s'est trouvé pendant la guerre soutien de famille, parce que mon grand-père, qui faisait le... qui naviguait sur le Havre, New York, s'est retrouvé à New York quand les Allemands ont envahi la France. Et donc mon grand-père, ni une ni deux, ce qu'on n'a pas su, parce que pendant cinq ans, il n'a pas donné de nouvelles... Ouais. Ni une ni deux, il s'est retrouvé bloqué à New York. Il a dit pas de problème, je m'engage dans l'armée américaine. Et donc il a fait des choses lui aussi assez incroyables, mais sans donner de nouvelles parce qu'il pouvait pas en donner. Mmh. Et donc mon père se retrouve soutien de famille avec sa mère qui travaillait un petit peu dans un bar-tabac, mais ça suffisait pas à nourrir les trois enfants. Donc il braconnait, il faisait des travaux, il travaillait dans les fermes, il se louait à la journée dans les fermes. Et puis, en braconnant, un jour, il s'est retrouvé complètement paralysé. Il avait attrapé la polio. Et ça a été...
La moitié du corps paralysé.
Et, il a eu donc la moitié du corps paralysé. Mmh. Il a eu cette chance-là, parce que la polio, c'est pas par étapes. Oui. Ça peut tout prendre. Il a eu un ami que j'ai souvent vu, moi, qui était totalement pris, qui vivait avec un respirateur. Mmh. Et donc, il a, malgré ça, il a réussi à... On l'a envoyé à Paris, il a réussi à faire ses études.
Incroyable.
Alors il faisait ses études, maintenant on appelle ça les contrats en alternance. Ouais. Il faisait alternance, maths sup, maths spé, l'hôpital. Donc il a été opéré, je crois, une quinzaine de fois.
Ouais.
Et entre ces opérations, il revenait en prépa. Puis il avait un copain qui lui amenait tous les trucs. Donc quand il était dans son lit à l'hôpital, il travaillait. Et donc il a réussi ses études. Et ensuite... avec ma mère, ils sont partis. Ils sont partis. Ils ont décidé de quitter la France. Et malgré son handicap, il s'est retrouvé en Nouvelle-Calédonie, ensuite en Afrique, dans la brousse, enfin faisant des choses invraisemblables pour un handicapé.
Une vie de fou qui est déroulée dans ce livre La Volonté. Cette volonté absolument inébranlable dont il a fait preuve toute sa vie, c'est aussi celle contre laquelle vous avez dû vous construire, vous, comme c'est souvent le cas des fils, à deux nuances près. Vous vous êtes retrouvé avant sa disparition. Vous étiez en très bons termes. Et c'est un homme dont la conduite avec les femmes, à commencer par la sienne, aura été un modèle pour vous. Est-ce que votre dette envers lui, c'est ce livre ?
Très honnêtement, ça fait très très longtemps que je voulais l'écrire et je n'y arrivais pas. Parce que c'était pour moi un morceau d'anthologie, en fait. Mmh. Et je me suis, alors bizarrement, c'est avec le cinéma que je me suis débloqué. C'est en regardant le film de Cuarón, Roma.
Oui.
Et je me suis dit, lui, il est arrivé. Alors, je suis pas Cuarón, mais je me suis dit, si lui est arrivé, je vais peut-être essayer. Et c'est tombé, c'est assez bizarre, les circonstances, parce que je venais de terminer le tournage de Jenny Grandet. Mm-hmm. Trois jours après, Macron annonce le confinement. Mm-hmm. Et là, du coup, je pouvais plus monter mon film, j'avais plus rien à faire. Et là, je me suis dit, j'ai des semaines devant moi. Il faut que j'y aille. Je vais écrire ce livre. Et je l'ai écrit. Et je l'ai écrit à ce moment-là.
Donc, en fait, vous avez lâchement profité du confinement.
J'ai lâchement profité du confinement. Et puis j'ai écrit d'autres choses après. Mais ça a été un moment. C'est vrai que pour les écrivains, ça a été un moment. Le téléphone sonne plus. Il y a plus d'impératif. Il y a plus de voyage. Il y a plus rien. Donc. On est condamné à travailler.
Le confinement dont vous dites qu'il a provoqué une sidération qui ressemble à un retour à la réalité après l'excès d'illusions. Parce qu'en fait, il y a tout un regard de Marc Duguin sur le monde dans lequel on vit et qui est un regard à la fois très humaniste, mais pas très réjoui quand même.
je suis pas d'un optimisme. J'ai quand même l'impression qu'on va dans le mur, ne serait-ce que sur la question, il y a deux thèmes moi qui m'obsèdent, sur lesquels j'écris assez régulièrement, dont un sur lequel je prépare encore un livre. Il y a évidemment le réchauffement climatique, ouais, qui nous arrive dessus comme un orage dont on ne sait pas si on va sortir. Et puis la révolution numérique qui est en train de changer totalement les rapports entre les gens. Et le rapport au pouvoir, qui a commencé à l'époque du terrorisme, qui a continué pendant le confinement, et on se rend compte que, à la fois, le numérique a bien aidé pendant le confinement, ouais, c'est une réalité, mais en même temps, on est devenu totalement esclave de cette technologie, et tout ça, je trouve normal quand on écrit, qu'on se pose des questions sur où va cette société, et donc il y a des sujets... Il y a des raisons de se réjouir, je dirais, au niveau du numérique, parce que la technologie aide quand même à beaucoup de choses. Et en même temps, on a l'impression d'aller vers une société qu'on ne maîtrise absolument plus.
Des questions qui sont en filigrane tout au long de ce texte absolument passionnant, la volonté de Marc Duguin, et c'est édité chez Gallimard. Et c'est plus que recommandé par Pop Pop Pop. Marc, après avoir parlé du roman, on va s'intéresser à Eugénie Grandet, qui est un autre roman, me direz-vous, et qui arrive au cinéma après-demain. On va en parler avec Charline Roux juste après Royal Morning Blue. C'est une pépite signée Damon Albarn. By your side.
that ever happens.
Inter. Antoine Decaune. Pop, pop, pop.
Et Charline Roux. Et c'est en robe longue, à la mode de 1834, bien façon sûr. Eugénie Grandet, que Charline Roux vient de faire son entrée dans notre studio. Bonjour Charline.
Pas sûr de réussir à respirer jusqu'à la fin de l'émission. Mais avec
si
le corset.
Vous y allez très bien y arriver. Et bel hommage, bravo. Charline, J-2 avant la sortie de la nouvelle adaptation du roman Eugénie Grandet d'Honoré de Balzac par notre invité Marc Duguin. C'est un roman édité en 1834, donc comme je le disais, nous sommes en 2021. Pouvez-vous nous pitcher le film, comme disait si bien Balzac?
C'est vrai qu'il le disait comme ça. Félix Grandet, d'une avarice qui n'a d'égal que son sens des affaires, des plus opportunistes, ceci expliquant sans doute cela et vice-versa. Il règne en maître sur ses petites entreprises comme sur sa famille, puisque sa fille, la très pure Eugénie, est de fait le parti le plus convoité de la région, ce que la jeune fille ignore, puisque le père Grandet ne s'étend étrangement pas sur la fortune dont il dispose. L'arrivée soudaine du neveu de Grandet, Charles, orphelin et ruiné, va pourtant bouleverser la vie assez peu palpitante de la jeune fille. Eugénie Grandet, c'est un roman qui a déjà été adapté à la télé, au ciné, y compris dans des versions italiennes, mexicaines, américaines, avec en sous-titre The Conquering Power. Comment est-ce que vous vous expliquez que les préoccupations de ce livre, paru donc en 1834, continuent de résonner aujourd'hui et hors nos frontières ?
Parce que je crois qu'il y a, quelque chose de fondamental. Il y a deux choses qui sont fondamentales dans ce livre de Balzac. C'est le rapport à l'argent et la destruction des rapports humains par l'argent, qui est une chose qui continue à prospérer d'une certaine façon. Et ensuite, il y a évidemment le rapport aux femmes et la vie des femmes au 19e siècle. Qui est, aujourd'hui, on parle énormément des femmes à juste titre. Et c'est incroyable de voir quelle était la vie d'une jeune fille de bonne famille. Donc, il y avait des moyens. Elle n'était pas vaincue par la pauvreté. Et comment les femmes à l'époque étaient totalement sous la coupe des hommes, c'est-à-dire que elles servaient de reproductrices, elles servaient de monnaie d'échange à travers les dots, ces fameuses dots dont on a perdu l'usage, bien heureusement. Et donc, ce qui est extraordinaire, moi, ce qui est extraordinaire quand j'ai relu Eugénie Grandet, c'est la façon dont Grandet, qui est non seulement athée, mais il a fait sa fortune sur les biens du clergé pendant la Révolution.
Et en s'appuyant sur ses dictates, en plus.
Exactement. Et il continue, et évidemment, il entretient la religion, non pas chez lui, mais chez ses femmes, de telle façon à ce qu'elle soit complètement verrouillée par une institution. Ouais. Et c'est assez monstrueux, en fait. Et la vie de Eugénie Grandet, et c'est ça que j'ai voulu montrer dans le film, c'est à quel point cette vie est déprimante. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune, mais Et c'est pour ça que, ouais. Ok, échappatoire, et elle n'a pas d'autre solution que d'être amoureuse de l'amour. Mm-hmm. Parce que, est-ce qu'elle est vraiment amoureuse de Charles? On ne sait pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle est amoureuse de l'amour, parce qu'elle pense que l'amour peut la faire sortir. C'est une sorte de quête spirituelle à travers l'amour.
Le beau Charles et Eugénie Grandet, version Marc Duguin, ça sonne comme ça.
Est-ce péché, mon père, que d'espérer un grand amour?
Quand te décideras-tu pour Eugénie? Et notre mauvaise fortune n'en fait pas une proie convoitée.
Il vaut mieux attendre pour viser mieux.
Je suis Charles Grandet, le fils de votre frère.
Il a fallu vous sortir avec mon neveu pour faire courir les rumeurs les plus folles dans son mur. Elle va devoir partir. Tu ne le verras plus jamais.
Aucune société n'acceptera de fréquenter une femme seule.
Croyez-vous que j'en ai besoin de cette société?
Mais qu'est-ce que vous allez faire?
Eugénie Grandet, par Marc Duguin, c'est avec Joséphine Japy, Valérie Bonneton, Olivier Gourmet, César Dombois et bien d'autres. C'est amusant d'ailleurs un film sur l'avarice quand on s'appelle Duguin.
C'est ce qu'on appelle un concours de circonstances.
Dans le rôle de Félix Grandet, l'excellent Olivier Gourmet, à la fois dictateur et prisonnier, vous le disiez, des normes et de son avarice, un personnage envisagé pour le coup sans anachronisme aucun comme une personnification du patriarcat, et peut-être un premier symptôme du capitalisme pas encore tout à fait galopant. Si on était dans une franchise américaine, est-ce qu'on pourrait sous-titrer le film « Grand mot de notre société, Origins » ou le préquel, peut-être éventuellement?
On pourrait.
Ouais.
Ouais, on pourrait. Non, mais ce qui est intéressant avec le père Grandet, c'est qu'il en existe aujourd'hui encore des centaines et des milliers.
Oui.
C'est ce rapport. On parlait tout à l'heure à propos du livre de Bépessimisme, mais il y en a un qui pour moi est fondamental. C'est comment on peut arriver à ce niveau de cupidité, en fait. Mmh. C'est-à-dire le fait de n'en avoir jamais assez. Et moi, je pense que ça relève de la névrose obsessionnelle, en fait. Et parfois, on n'est pas très loin de la psychose. Mmh. Et on a ça encore aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on a une économie qui est basé sur une névrose obsessionnelle, qui est de toujours consommer plus, accumuler, avoir toujours plus. Et forcément, on va dans le mur. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est le tout début. C'est-à-dire qu'avant, évidemment, bon, l'aristocratie n'était pas tellement plus recommandable dans ses rapports sociaux, mais il y avait un truc un peu, bon, voilà, on a hérité, le roi, Dieu, etc. Mais là, on est vraiment, avec Eugénie Grandet, on rentre dans l'essence même du libéralisme qu'on connaît aujourd'hui. Mmh.
Alors certes, Eugénie Grandet parle, comme souvent chez Balzac, du statut des femmes, de la possibilité ou non d'émancipation. Mais est-ce qu'on peut le voir aussi pour le film, ou le lire comme un grand film, un grand roman sur l'ennui? Eugénie passe ses journées, vous le disiez, à coudre devant une fenêtre, elle ne peut pas lire comme elle le souhaite. Et est-ce que c'est facile à restituer cette pesanteur au cinéma?
Il faut juste éviter que l'ennui ne se propage pas aux spectateurs.
Mais c'est vrai,
ce qui est fondamental.
C'est aussi un grand roman et un grand film sur l'ennui, en fait.
Oui.
C'est
terrifiant. D'ailleurs, on a beaucoup travaillé là-dessus, sur les décors, sur les silences, sur les bruits, sur cette façon de ce temps qui passe pour rien. Ouais. Et ça c'est fascinant. C'est-à-dire que c'est vraiment
Bien le seul à passer pour rien.
Comment?
C'est bien le seul à passer pour rien.
Et elle est totalement enfermée, en fait. Et c'est effrayant parce que, et en même temps c'est très intéressant parce que comme on parle beaucoup de la condition féminine aujourd'hui, et je le dis encore à raison, c'est intéressant de voir d'où on vient. C'est-à-dire que on vient vraiment d'une domination masculine absolument monstrueuse. Il y a pas d'autre mot. Et que ensuite les femmes ont gagné petit à petit. Donc c'est un combat qui est incessant, qui évidemment ne doit pas s'arrêter parce que on n'est pas encore arrivé au bout.
Marc Duguin, Balzac a fait partie des lectures paternelles, hein, que vous évoquez dans La Volonté. Il aime, dites-vous, Balzac qui l'entraîne, Hugo qui lui en impose, Zola qui ose. Vous aussi, Balzac vous entraîne?
Balzac, on en parlait tout à l'heure, il y a cette modernité, il y a ce regard que moi j'aime beaucoup. D'abord, c'est vrai que c'est pas pour complaire aux idées, je dirais, à la mode. C'est que Balzac aime profondément les femmes et trouve les hommes profondément ridicules. C'est ça qui est intéressant. Il y a quelque chose de... il a le sentiment que Il en a fait partie parce qu'il a essayé de faire des affaires, il a raté tout ça, mais il a gardé cette lucidité sur ce qu'est l'homme masculin, c'est-à-dire cette façon d'être dans les petits intérêts, d'être dans les magouilles, et finalement de ne jamais s'élever. Et du coup, il voit chez la femme une capacité de s'élever que n'a pas l'homme. Mmh. Et c'est très intéressant parce que à l'époque, ils sont pas beaucoup à penser comme ça. Et puis par ailleurs, ce qui est très intéressant avec Balzac, c'est que il a d'abord une forme de sociologie narrative qui est le début de la sociologie narrative en littérature. Et d'une certaine façon, il scénarise beaucoup.
Oui.
Il scénarise énormément.
Eugénie Grandet, c'est le troisième long métrage de Marc Duguin, c'est à découvrir au cinéma mercredi. On va reprendre cette conversation, on n'a pas fini avec Eugénie Grandet, mon cher Marc. Mais pour l'instant, petit pop break dans ce pop-pop-pop, il est 16h30, c'est l'heure des pop news.
Et une première bande-annonce pour Les choses humaines d'Yvan Attal, d'après le roman de Karine Thuil, bande-annonce empreinte de gravité et dans un premier rôle bien compliqué, Ben Attal.
Bonjour.
Bonjour, police judiciaire. Vous êtes Alexandre Farrel ?
Mais qu'est-ce que vous faites là ?
Vous êtes tout seul ici, monsieur ?
Oui,
on procède à une perquisition.
Vous pouvez vérifier, s'il vous plaît ? C'est forcément une erreur.
Demain, je rentre chez moi aux États-Unis.
Ah, plus maintenant, non.
Je suis maître Arthur Célérier, votre avocat commis d'office. Est-ce que tu sais ce qu'on te reproche ?
Ils disent que j'ai violé une fille.
Vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés ?
Non, elle était consentante.
L'avocat commis d'office, c'est Benjamin Laverne. On retrouve également au casting Charlotte Gainsbourg, Suzanne Joanet ou encore Mathieu Kassovitz, sorti dans les salles le 1er décembre.
Imaginez une vieille demeure américaine, presque un manoir. Il y a quelques dizaines d'années, les lumières y vacillent, la radio grésille étrangement. Il arrive malheur à ses habitants. C'est précisément dans cette maison que le retrouvent les jeunes héros de la série Stranger Things. Dans une bande-annonce dévoilée ce week-end, et ils cherchent des indices.
Could you maybe clarify what sort of clues we're supposed to be looking for here?
The world is full of obvious things which nobody by any chance ever observes. Sherlock Holmes.
Très bien, non ? Dustin se prend pour Sherlock Holmes, ça sent l'upside down et les démos Gorgon n'ont pas d'autres précisions qu'en 2022 sur Netflix. On vous met la bande-annonce sur le compte Twitter 3615 pop-up.
Encore une fois, il faisait bon être à London ce week-end. Samedi, depuis un balcon de Soho, Jack White a donné un mini-concert pour fêter l'ouverture de la boutique Thurman Records, son label, dans la capitale anglaise. Les voisins se sont régalés. Steady as she goes des raconteurs, le premier concert de Jack White depuis juillet 2019. Et pour ceux qui traverseraient la Manche, la boutique est au premier Marshall Street.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine Decaune.
Les voisins se sont régalés, à commencer par Charline.
Bah ouais, mais j'étais trop loin.
Mais vous étiez beaucoup
j'adorais
trop loin.
J'adorerais y aller. On y va ?
Merci Charline. On va y aller très bientôt. Marc Duguin, dans la suite de Pop-pop-pop, nous parlerons de...
Je suis Charles Grandet. Fils de votre frère.
Lola Arias og hendes udstilling som hedder The Square.
Ça, ce sera tout à l'heure dans votre pop-list. Mais pour l'instant, continuons à parler d'Eugénie Grandet.
Après une exécution ordinaire et l'échange des princesses, voilà donc votre troisième film dit d'époque. Pas les films les plus aisés à financer et à réaliser, j'imagine. Et pourquoi revenez-vous toujours à ces explorations de notre passé ?
C'est fini.
J'ai la fin.
Ben oui,
c'est ça.
Parce que je viens d'écrire un scénario qui est hyper contemporain, hyper moderne. Ouais. Voilà, je vais pas faire des films d'époque à vie.
Le cycle est terminé, vous voulez dire?
Non, il reprendra peut-être. Ouais. Mais en tout cas, il y a une pause. Mm-hmm. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Il y a plusieurs raisons. D'abord, vous l'avez dit, ça coûte au minimum 20-25% plus cher. Dans une économie du cinéma aujourd'hui qui est quand même assez sinistrée pour des films d'auteur en particulier. Mm-hmm. Bon, ça c'est pas insurmontable. Puis après il y a un autre écueil dont on ne se rend pas forcément compte, c'est que c'est de plus en plus difficile de trouver des paysages ou des lieux qui ne soient pas salis par la modernité. Parce que quand vous avez une éolienne dans le champ, c'est toujours plus compliqué que C'est pas plus compliqué que si vous avez, ce qui était mon cas d'ailleurs, une centrale nucléaire dans le champ, donc on a réussi à gommer. C'est grâce à la technique numérique, c'est génial. Ouais, mais et donc pour trouver des endroits où on a suffisamment d'axes pour que ça semble être le début du 19e siècle, c'est compliqué. Donc les repérages sont très 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 compliqués. Et puis évidemment il y a les costumes, les costumes, les décors, enfin tout est plus. Mais là c'est bon, moi c'est pas du tout calculé, c'est les sujets qui m'amène là. Le prochain sera
dans l'espace,
totalement contemporain aujourd'hui. Voilà.
Joséphine Japy est Eugénie Grandet, avec un Olivier Gourmet qui joue le père aussi impérial, aussi naturel en père Grandet qu'en Philippe d'Orléans dans l'échange des princesses. Quel genre d'alchimie est à l'œuvre entre vous deux?
Ben, je crois qu'on a en commun un truc de campagnard, en fait. Non, c'est vrai. Olivier Gourmet, il vit dans les Ardennes, à Saint-Hubert, qui est, je crois, le saint des chasseurs. Bon, ça je lui laisse. Mais c'est quelqu'un qui, en fait, ne se supporte pas ailleurs qu'à la campagne. Ouais. Et donc, dès qu'il a fini de tourner, il repart dans son antre. Et en fait, on se comprend, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup et on n'a pas besoin de se parler beaucoup sur le plateau. D'abord, il est arrivé, il savait parfaitement ce qu'il voulait faire. Moi, j'ai vu tout de suite que ça correspondait. On avait fait une lecture ensemble, on avait discuté. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'on avait discuté sur la seule discussion qu'on ait eue, c'était sur le caractère incestuel ou incestueux de la relation entre Eugénie et son père.
Qui peut être lu comme ça, tout à fait.
Qui peut être lu comme ça. Et en même temps, on trouvait l'un et l'autre que c'était un peu exagéré. C'est-à-dire qu'en fait, chez Grandet, c'est pas tant la possession sexuelle qui l'intéresse avec sa fille. C'est que tout lui appartient. L'argent, les biens, les personnes. Comme ça, au moins, il est tranquille. Les animaux aussi. Alors, il y a un chien dans le livre, mais je l'ai pas mis dans le film. Mais en fait, tout lui appartient. Donc, il y a quelque chose comme ça de. Mais donc, on a eu une discussion là-dessus. Et puis ensuite, ça a été fini. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec lui. J'avais travaillé avec lui sur l'échange des princesses. Là, il y a quasiment jamais rien à lui dire quand on tourne, parce qu'il est exactement il n'est jamais dans une forme de confort, c'est-à-dire qu'il se réinvente, mais il est très très concentré, il parle très peu en dehors du plateau, il rentre dans son hôtel, il retravaille son texte, il revient le lendemain, il est très très
extrêmement impressionnant comme toujours.
Ouais. Il est très puissant, il a quelque chose de quand il arrive sur un plateau. Moi, je me souviens, dans l'échange des princesses en Belgique, quand il est arrivé sur le plateau la première fois, je le connaissais pas. Je l'avais vu deux secondes avant, et d'un seul coup, tout le monde, parce qu'il a quelque chose d'imposant, naturellement, et dans ce rôle, qui est quand même celui d'un homme terrifiant, il est terrifiant, et on le sentait d'ailleurs, et plusieurs fois j'ai dit à Joséphine, te laisse pas impressionner, parce que c'est un rouleau compresseur, lui. Et donc voilà, on est arrivé un petit peu à recadrer ça, mais c'est un acteur exceptionnel.
Olivier Gourmet, acteur exceptionnel, nous sommes tous d'accord dans ce studio, et pas que dans ce studio. Est-ce que c'est important, très important même, que ce film soit vu par des collégiens, des lycéens aujourd'hui, notamment pour leur faire écouter une langue qui est notre matrice commune?
C'est toujours bien d'écouter ou de lire la langue de Balzac. Alors après, si vous voulez, ça c'est l'écueil des films d'époque aujourd'hui, c'est-à-dire que on n'est plus habitué à cette langue. C'est une langue extrêmement riche et qui, du fait de sa richesse, peut paraître parfois un peu prétentieuse. Et pour les jeunes en particulier. Moi j'ai deux enfants jeunes, j'en ai deux qui sont moins jeunes, j'en ai deux qui sont jeunes, et c'est vrai que quand ils voient le texte, ils disent oh là, mais c'est trop. Parce qu'aujourd'hui on est habitué quand même à un rétrécissement, une compression du langage. Donc la difficulté c'est de respecter Balzac tout en créant suffisamment de modernité pour que ça soit accessible. Voilà ce que j'ai essayé de faire.
Au casting, dans le rôle du neveu Grandet, Charles de son prénom, César Dombois, qui nous a été recommandé dans une série qu'adore Catherine Ringer, soit Outlander, comme par hasard une série d'époque, hein, c'est l'histoire d'une infirmière de 45 qui se retrouve en 1743, si mes souvenirs sont bons. Comment est-ce que vous l'avez découvert dans cette série ?
Eh ben non.
C'est pas l'attrait du costume, donc.
Non, c'est pas. Alors, on m'a dit qu'il tournait dans la série, mais alors moi, évidemment, j'ai regardé la série, mais c'était les épisodes où il était pas. Donc, je me suis dit bon, on va pas y arriver. Et en fait, comme je produis des films aussi, et il se trouve que qu'on a produit un film, je crois que c'est d'Assayas, et il y avait des essais. Et ces essais, il les a ratés parce qu'il n'a pas été pris pour le rôle. Mais moi, je l'ai trouvé formidable. Et je me suis dit, mais en fait, à la fois physiquement, à la fois dans sa façon de se dépasser, tout ça, il serait parfait. Et je l'ai pris sur cette base-là.
Comment s'appelle ce film d'Honoré de Balzac, revu par Marc Duguin?
Eugénie Grandet.
Eugénie Grandet, c'était juste pour vérifier.
Ah, c'était une interro surprise, je pense.
Ça sort après-demain dans les salles.
Arrêtez, me mettez pas en position d'examen quand je suis pas préparée.
C'est ça la classe pop-pop-pop. Vous êtes en train d'écouter pop-pop-pop, nous sommes avec Marc Duguin, en train de parler d'Eugénie Grandet, et nous allons écouter un petit
Grandet.
Peu... Grandet, pardon.
Ça vous apprendra.
C'est la contraction de Grandet de Duguin, c'est ça?
Absolument. Moi, j'aime bien Grandet. Ce sera juste après. C'est un morceau du groupe Parcelles qui était dans ce studio il y a quelques jours.
Is it all that kind?
Free Parcels.
Non, les harmonies vocales, voilà. On n'y est pas du tout. Voilà. Pardon.
Voilà de quoi patienter avant leur double album. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et Marc Duguin dit, oh c'est top, c'est top, c'est top. Oui, oui, oui. Pourquoi c'est si top que ça, Marc Duguin? Pourquoi est-ce que vous choisissez ce son-là?
Parce que c'est la musique de Bullitt.
Ouais, Lalo Schifrin.
Lalo Schifrin, ouais. Il vit toujours, je crois, d'ailleurs.
Ah, je
crois
sais
qu'il
pas.
A 84, je crois qu'il vit toujours. Mm-hmm. Enfin, la dernière fois que j'ai regardé, il vivait toujours. C'est, il n'y a pas si longtemps que ça.
Il y a deux heures.
C'est génial, c'est, ce film, moi je suis un fan total de ce film.
Pourquoi est-ce qu'il représente à ce point pour vous la pop culture? Je vous dis pop culture, vous me dites...
Parce que c'est ma génération.
Ouais.
Moi je suis rentré dans la culture, dans le cinéma avec un film comme ça, dans la musique avec Lalo Schifrin qui en a fait des... Moi je crois que j'ai les œuvres complètes de Lalo Schifrin, mais je sais pas combien c'est de disques, c'est phénoménal. Et il y a quelque chose de, en plus de San Francisco, qui est la ville que je préfère aux États-Unis. Enfin, tout est là.
Tout est là.
Tout est là.
Très bien. Il est 16h45 et c'est l'heure de votre pop-liste, puisque tout est là. Et quel est votre livre du moment, Marc Duguin? Votre série, votre film, votre musique? Réponse tout de suite. Votre livre, c'est « Dans la gueule de l'ours » de l'écrivain américain John McLaughlin. Charline, à ne pas confondre avec John McLaughlin, le guitariste écossais qui vient de publier d'ailleurs un nouvel album, un demi-siècle après sa collaboration avec Miles Davis, figurez-vous.
Et ben vous m'éclairez, Antoine, je vous en remercie.
Je sais.
Pour ce qui est du roman, Rice Moore est un criminel en cavale qui a trouvé refuge dans une réserve des Appalaches, employé comme garde forestier. Il cherche à se faire oublier du cartel de drogue mexicain qui l'a trahi. Mais la découverte de la carcasse d'un ours abattu vient tout chambouler. S'agit-il d'un acte isolé ou d'un braconnage organisé?
Marc Duguin, auriez-vous l'amabilité de nous en lire quelques lignes?
L'une des rares leçons que le père de Rice avait réussi à lui inculquer avant de mourir, c'était que tergiverser revenait à choisir d'échouer, car on n'essayait pas de toutes ses forces. Il s'agissait, avait déclaré son père, du choix rationnel de gens qui préféraient échouer exprès plutôt que de risquer de découvrir qu'ils n'étaient pas assez bons. Quand on faisait ce choix, on devait au moins avoir l'honnêteté de le reconnaître.
Extrait de « Dans la gueule de l'ours » de John McLaughlin. Votre choix littéraire, expliquez-nous pourquoi, s'il vous plaît, Marc Duguin.
Ben, c'est un hasard. c'est un pur hasard, parce que ma femme lit énormément, parce qu'elle est éditrice. Mm-hmm. Et donc, quand elle trouve un livre très bon, elle me le passe. Mm-hmm. Donc, ça m'évite des sélections compliquées. Et celui-là, c'est un premier roman.
Ouais.
Et chapeau.
Chapeau.
Chapeau, ouais, c'est vrai, c'est vraiment. Puis, surtout, ça emmène dans l'Amérique que moi j'aime, dans la nature. Enfin, il y a des histoires avec des chasseurs d'ours, et il y a une violence qui est très intéressante et qui est très très bien décrite. Et c'est un. Mais je suis au milieu.
J'ai pas terminé.
Non, parce que j'ai compris que c'était le livre dans lequel j'étais. Donc je suis dedans.
Très bien.
Et je continue.
Pas de spoiler, nous ne connaîtrons pas la fin, et tant mieux.
Non.
Donc dans la gueule de l'ours de John McLaughlin, passons au film. Le film, c'est The Square, du réalisateur suédois Ruben Östlund. C'est un film palme d'orisé à Cannes en 2017. Charline, une fable jubilatoire, cruelle et lucide, comme je le disais, c'est justement en 2017. Oui, c'est important de s'auto-citer dans sa propre émission. C'était il y a 4 ans. Rappelez-nous l'argument.
Christian est le conservateur d'un musée d'art contemporain de Stockholm. Il prépare une exposition intitulée The Square, un simple carré à l'intérieur duquel les spectateurs seront appelés à être altruistes, à mieux comprendre les besoins des autres. Mais le vol de son téléphone, de son portefeuille, de ses boutons de manchette vont le faire quelque peu disjoncter et révéler quelques sentiments contradictoires.
What are the biggest challenges in running a museum?
We're a museum of modern and contemporary art, so we need to present art that is the art of today. Art that is absolutely cutting edge, and the competition is fierce.
Her til efteråret præsenterer vi den argentinske kunstner og sociolog Lola Arias og hendes udstilling, som hedder The Square.
Marc Duguin, pourquoi... Non, attendez.
Varför valde du den här filmen, Marc Duguin?
Je veux dire, pourquoi avoir choisi ce film suédois, Marc Duguin?
Moi, je suis toujours assez impressionné par ce que je ne sais pas faire. Et là, c'est un, je trouve que c'est un réalisateur extrêmement innovant. Ouais. C'est vraiment une œuvre d'art contemporaine, son film. Et il a eu la Palme d'Or à Cannes. Ouais.
Tout à fait.
Et 2017. C'était mérité, hein. Parce qu'il y a quelque chose de très innovant. Parce que le cinéma se cherche en permanence. On se dit bon, il y a des très bons films. On a l'impression d'en avoir vu 50 comme ça. Mmh. Et là, alors déjà, il en avait fait un avant qui était assez remarquable. J'ai pas de mémoire, moi, contrairement à d'autres.
Nous sommes deux ici, Monsieur Grondin.
Il avait fait un film assez extraordinaire avant, et celui-là.
Snow Therapy.
Mmh. Que j'avais trouvé aussi très très fort. Donc. Et il a une approche en plus, ça revient à ce qu'on disait sur Balzac, mais très sociologique. Ouais. Et je suis toujours, ça m'intéresse toujours ces approches-là.
J'ai un livre, j'ai un film, parce que nous parlions de The Square. Passons à la série, votre série du moment, c'est Bir Baskadir. C'est une série turque disponible sur Netflix, Charline, avec une héroïne qui a un point commun avec vous, elle s'évanouit tout le temps. Dites-nous en plus.
C'est à cause du corset, ouais. En fait, c'est pour ça. Histoire entrelacée d'une demi-douzaine de personnages, la série raconte les tensions qui traversent la société turque, notamment entre les conservateurs religieux et les libéraux.
Değişik hareketlerim var bak Meryem. O karıyla başladı bu iş.
Abi alakası yok.
Var, var. Çok alakası var.
Yani inanmak isteyen şahsı çatlağını bulan su gibi yolunu buluyor yani.
Alors, Marc Duguay, même question. Pourquoi? Ah non, attendez.
Neden bu Marc Duguay serisini seçtiniz?
Ça veut dire pourquoi avoir choisi cette...
On aurait fait rater l'essentiel.
C'est en turc, bien sûr.
Ben parce que je la trouve absolument géniale, mais vraiment géniale. Uh-huh. Je suis resté. Alors c'est, sur Netflix, il y a plein de séries. Il y en a, je sais pas combien de dizaines, si ce n'est de centaines. Et celle-là, je suis tombé dessus et j'ai trouvé que c'était un travail. J'étais baba, mais vraiment baba, parce qu'il y a, justement cette rencontre entre la société turque moderne, la société turque un peu plus archaïque, mais c'est fait avec beaucoup d'intelligence, sans a priori, sans espèce de volonté de compartimenter politiquement. Il y a pas de bien-pensance particulière. Ouais. C'est juste d'une intelligence. Et on est un petit club. J'ai appelé plein de copains en leur disant il faut voir ça. Qui ont appelé d'autres copains. Donc je pense que ça c'est en train de se.
Eh bien élargissons voilà. Le
alors
club.
Là, évidemment aujourd'hui là j'ai jamais eu autant de copains devant moi. Donc je me dis c'est le moment. Bir Baskadir.
Moi
j'attends la prochaine saison avec une impatience. Non parce qu'il y a dans les séries. Ça m'intéresse, puis on est en train de m'en proposer une, mais je trouve que les séries occidentales, on s'essouffle un peu sur nos propres, sur une forme de un peu de nombrilisme. Mmh. Et là, il y a quelque chose de très ouvert, de très et un traitement qui est non, c'est remarquable, remarquable.
On vous propose une série, pardon, excusez-moi de rebondir, mais je suis extrêmement curieuse.
Oui, on propose une série. Alors, vous êtes historique.
La comédie humaine. Ça s'appelle.
Alors, je voulais faire un film d'anticipation. Eh ben non, pas du tout. C'est difficile.
Marc Duguay. Terminons cette pop-liste en musique avec l'artiste que vous écoutez en ce moment. Il s'agit de Robert Glasper. C'est une des figures montantes du jazz actuel, c'est ça?
Oui.
Deux mots sur Robert Glasper.
Ouais, moi, ce que j'aime après. Beaucoup, c'est vous savez que je pratique beaucoup la batterie et les percussions. Mm-hmm. Parce que ça, c'est au minimum une heure par jour.
Ah oui?
Ah oui, c'est le moment. C'est un des moments où je suis le mieux dans la journée.
Ah ben vous devez commencer à toucher un peu de bille, là, comme on dit, non?
J'ai peur que non.
Ah bon? Non. Toujours pas.
Non. J'ai peur que ça soit désespéré. D'ailleurs, je ne me produis pas. Je me produis tout seul avec mon casque.
Ils sont très isolés. Robert Glasper.
Mais j'adore ça parce que c'est très très bon pour la coordination, le fonctionnement du cerveau, puisque les bras sont dissociés, les jambes sont dissociées. Ouais. Et Robert Glasper, donc, pour revenir à l'essentiel, il y a une sorte de fusion. Vous avez parlé de John McLaughlin dans le temps, le jazz avec fusion Miles, avec la pop et le rock. Et là, c'est une fusion du hip-hop et du jazz. Et il y a des morceaux que j'adore.
Eh bien, on va écouter ce que ça donne. Par exemple, celui-ci, « How much a dollar cost ?» How Much Dollar Cost Robert Clasper. C'est une collaboration avec Thérèse Martin et on aura reconnu, comme Charline me le faisait remarquer, un thème de Kendrick Lamar.
Enfin, absolument.
Utilisé dans la...
How Much Dollar Cost.
Bravo. C'est donc Robert Clasper que nous a fait découvrir aujourd'hui Marc Duguin, notre invité à Pop Pop Pop. Merci Marc d'être passé, d'avoir passé cette pop-heure en notre
merci beaucoup.
Compagnie. Je rappelle que La Volonté, votre dernier roman, est édité chez Gallimard, qu'il est plus que recommandé. Et je rappelle également que votre film...
Eugénie Grandet,
ouais. Et à découvrir mercredi au cinéma. Et on vous retrouve sur France Inter ce dimanche à 17h dans Livre et Châtiment, l'émission de Clara Dupont-Monod. Merci Marc.
Merci beaucoup.
Merci Charline.
Merci à vous.
À demain.
Oui, bien sûr.
Merci.
Oui, enfin, est-ce que je tâche?
Et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Julien Dumont qui était à la technique aujourd'hui. Demain, dans Pop Pop Pop, le groupe Birds on the Wire vient nous rendre visite avec le comédien Simon Astier. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop.